France Culture.
Bonjour le Book Club. Arzak, on sort complètement de la BD classique, évidemment. Et c'est ça qui est amusant chez Moebius, c'est que même si parfois on ne comprend pas forcément toutes ces histoires, on se laisse toujours emporter dans ses rêveries.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Bande dessinée cultissime aujourd'hui dans votre book club. Il y a pile 50 ans, en 1975, donc, paraissait la version originelle de Arzak dans les premiers numéros du magazine trimestriel Metal Hurlant. On y découvrait 4 histoires de 8 planches chacune, de courts récits muets et en couleur, signés Jean Giraud, que l'on connaît sous le pseudonyme Moebius. Référence incontournable pour de nombreux artistes, les éditions Moebius Productions publient ces jours-ci Arzak Destination Tassili Corpus Final, un ensemble de documents qui permettent de saisir ce monde fictionnel tentaculaire et rhizomique. On vous raconte tout ça avec Jean-Pierre Dionnet et Aurélie Huse. Vers 15h50, comme chaque mercredi, nous retrouvons Mathilde Wagman et ses lectures jeunesse. Aujourd'hui, la joie de la science en partage avec un livre plein d'expériences. Et en fin d'émission, on joue avec vous à chercher trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voici ensemble pour une heure. Vive les histoires en forme d'éléphant. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Jean-Pierre Dionnet.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs du magazine Metal Hurlant, qui fête aussi son anniversaire, et de la maison d'édition Les Humanoïdes Associés. Bienvenue à vous dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. Merci d'être avec nous pour évoquer cette histoire. Une exposition célèbre cet anniversaire aussi. Metal Hurlant, 50 ans et déjà immortel. C'est à voir du 24 avril au 27 septembre 2025 à la maison Folie Hospice d'Avray à Tourcoing. Et puis on peut aussi lire vos mémoires qui étaient parues aux éditions Diable Vauvert. Bonjour Aurélie Huse.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, vous êtes maîtresse de conférences en littérature française des 20e et 21e siècles à l'Université Paris-Nantes. Vous êtes, entre autres, mille autres choses, spécialiste de la science-fiction et des cultures médiatiques. Un chapitre de votre thèse était consacré à Arzak, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
On va évoquer donc Arzak aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup d'être ici.
Merci
bienvenue
à vous.
Dans le Book Club. Ici, le Book Club commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On fait d'habitude le portrait de nos invités en tant que lectrice et en tant que lecteur. Donc c'est évidemment en tant que lecteur et lectrice d'Arzak que vous êtes là. Mais on va plutôt essayer de faire une sorte de rapide portrait en creux de Jean Giraud, alias Moebius, pour commencer. On parle de cette année 1975, lui est né en 1938, il grandit pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'un point de vue de notice biographique avant de se lancer dans la très grande aventure d'Arzak, Aurélieuse?
Oui, alors en quelques mots, il y a des choses dans la vie de Jean Giraud avant Metal Hurlant. Et ce qui me semble important, c'est de le situer dans les renouvellements de la bande dessinée de l'époque et qui passe par les magazines de bande dessinée qui se revendiquent comme adultes, hein, comme rénovant ce média à destination d'un public plus âgé et en cherchant à sortir des codes et des conventions de cette bande dessinée. Pour Jean Giraud, ça passe surtout par l'entrée dans Pilote en 63. Pilote où il travaille à la bande dessinée Blueberry avec Jean-Michel Charlier. Et ensuite, par sa présence dans quelques autres magazines, comme Arakiri, par exemple, pareil, à partir de 63, L'Écho des Savanes, en 72. Et ça, c'est des expériences qui précèdent le lancement de Metal Hurlant en 75, mais donc qui ne vient pas de rien, et qui s'inscrit dans la continuité de ces transformations du milieu de la bande dessinée, des ambitions de la bande dessinée.
Et si on remonte un petit peu plus loin et à son goût pour le dessin, pour la narration, je mentionne son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui l'emmène à ce média-là ?
Alors, il est passé par les arts décoratifs,
où il a travaillé. On peut éventuellement entendre dans Arzak. Certains font cette lecture-là.
Oui, exactement. Arzak, ouais. Arza, art décoratif, art appliqué. Et c'est en passant par cette école qu'il décide de se consacrer au dessin, de travailler son dessin, et qu'il envoie des planches et qu'il commence à prendre contact avec les dessinateurs de cette époque.
Alors, si on fait un focus 1975 avec vous, Jean-Pierre Dionnet, et si on essaie de se demander quel lecteur était Jean Giraud et qu'est-ce qui a eu de l'importance dans son parcours de lecture, vous diriez quoi ?
Oui, c'était un grand lecteur et également c'était également un grand regardeur de séries télé. Alors à l'époque, c'était pas très à la mode. Alors, comme lecteur, je dirais que dans les 10 ou 15 dernières années de sa vie, ou les 20 ou 30 même, je dirais qu'il y a des moments magiques. Par exemple, il était fou allié de 24 heures avec Kiefer Sutherland. Mais fou allié, moi aussi, je dois le reconnaître, au point qu'on se faisait les 24 heures en durée réelle, avec des chips autour, et on disait, on doit bien ça à Jacques Boer.
Qui est le héros.
Voilà, qui est le héros joué par Kiefer Sutherland.
Mais en 75, il a lu quoi d'important?
Et en 75, les gens l'ont pas remarqué, quand il y a eu une expo chez Cartier, il avait mis pour moitié des livres de lui à l'entrée, et pour moitié des livres d'un écrivain d'horreur qui a pas tellement la cote en France, qui s'appelle Dean Koontz. Parce qu'il trouvait que Koontz, c'était du Stephen King en plus vicieux. Par exemple, l'éducation de Underhill, moi je lui dis, j'ai décroché au volume 3, parce que Underhill attend le mal absolu. Et au 3, il n'est pas arrivé. Il dit, tu verras, au 4 non plus. Mais au 5, le mal arrive.
Ça fait peur.
Il ne s'est pas expliqué. Disons que Koontz, qui par exemple pensait que Dieu était dans l'œil de son chien, un spaniel, ok, était fou allié, il partait sur 40 pages où il décrivait son chien sous tous les angles, sur 10 pages, et puis après il voyait le cosmos dans l'œil du chien. Bon, il était frappadingue, hein, Dean Koontz. Mais en même temps, c'est vrai qu'il avait une écriture déstabilisante, avec des changements de rythme, des changements de sujet en plein milieu.
Et Jean Giraud aimait vraiment ça.
Et que Jean Giraud aimait vraiment ça, c'était, pour lui, c'était son parent. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui dérivait. Il savait, il avait fait quelques romans au début, qui étaient des romans d'horreur traditionnels. Il savait qu'en les défaisant, et en faisant autre chose, on aboutissait à quelque chose de nouveau.
C'est intéressant pour tout ce qu'on va discuter aujourd'hui d'un renouvellement de la narration précisément. Est-ce qu'il y a des choses plus classiques qui ont été importantes dans son parcours de lecteur?
Évidemment, J.G., son premier maître, le créateur de Jerry Spring, qui va lui apprendre à dessiner. Donc, il va être l'assistant de J.G. pendant quelques temps. Et puis plus tard, quand il est parti habiter au Mexique à un moment, quand ses planches se perdent dans le courrier, J.G., qui doit le remplacer pour faire quatre planches à toute vitesse, dit « il est devenu meilleur que moi ». Parce que j'oubliais de dire, bien sûr, c'est un fou de western absolu, depuis toujours, western au cinéma, western en BD, y compris les BD américaines qu'on connaît pas en France.
Comment il se procure ça? Comment est-ce qu'il a connaissance de la scène de BD western états-unienne?
Parce que tous les enfants, moi j'arrive tard là-dedans, puisque j'arrive en 47, on était tous... des générations qui ont été américanisées, plus ou moins de force, surtout après-guerre. C'est-à-dire qu'on a vu déferler les PX, les magasins pour les GIs, où les uns allaient prendre des disques de rock, ils sont souvent devenus chanteurs, les autres allaient prendre des comic books, ils sont devenus, ou des journaux américains avec des bandes dessinées. Donc, il avait connu tout ça, cette invasion américaine. C'est-à-dire qu'on était devenus americano, comme dirait Danny Briand. Et c'est très curieux parce que...
Avec tout un imaginaire qui va avec, y compris visuel, quoi.
Oui, mais il avait un truc, par exemple, je suis allé, il avait un tout petit appartement où il a grandi, qui était à Trouville, par là, minuscule. Et j'y suis allé une ou deux fois, et ce qui était marrant, c'est que il avait un bouquin de Gustave Doré, Don Quichotte, qui était quand même un de ses maîtres, Doré, et qu'il ait pris Don Quichotte, c'est pas un hasard. Et il avait l'intégralité de tous les disques de Johnny Cash and the Carter Family. On est donc, avant qu'il redevienne célèbre autour de sa mort avec Heart et tout ça, on est à la période du Johnny Cash dur, comme ça, ou du Johnny Cash religieux. Eh bien, il avait tout Johnny Cash. Alors, quand on lui demandait ses goûts en musique, généralement, il disait, une fois il disait free jazz, une fois il disait j'adore les Beatles. En réalité, je lui dis, mais écoute, j'ai vu tes disques. Il dit, oui, je suis plutôt Johnny Cash, mais comme ça dit rien à personne en France. Attention, Giraud, il avait fait un documentaire pour la Fondation Cartier, où j'interviewais Gire et Moebius, les deux. Et il m'a demandé d'apprendre mon texte par cœur. Alors, les questions, il me les posait, et les réponses, je lui ai donné les réponses étaient prêtes.
Pourquoi?
Eh ben, alors, on fait le documentaire. D'abord, je le réveille d'un lit de mort. Il a déjà eu le cancer, donc il est gisant, il se réveille. Ça a terrifié le réalisateur. Après, on va dans la pièce à côté, et il y a Giraud qui dit « Écoute, tu vis sur mon argent, toi, qui te prends pour un artiste, Moebius. » Et Moebius lui répond, c'est lui, dans un autre plan, « Oui, mais moi, je fais de l'art, tandis que toi, tu fais juste du western. » Et à la fin, il me dit « C'était bon, L'important, c'est qu'après avoir vu ce documentaire, on en sache moins sur moi qu'on en savait avant.
Bon, on va peut-être s'arrêter là, alors on va peut-être pas trop creuser la personnalité de Jean Giraud et Mubus pour essayer de saisir ce qu'on va dire ensuite à propos de Arzak, mais néanmoins, vous aviez l'air d'opiner du chef Aurélie Huss quand on parlait de tout cet univers américain, que ce soit western, comics book, univers cinématographique, univers éditorial, qui aurait nourri Jean Giraud.
Oui, et j'ajouterais science-fiction, du coup, puisque ça fait partie pleinement de cette culture de genre qui s'importe comme science-fiction à partir des années 50 en France. Et il me semble que à Métal Hurlant et donc chez Meubus en particulier, il y avait une lecture de cette littérature d'évasion science-fictionnelle, d'aventure de science-fiction.
Et on aurait des noms, par exemple ?
Alors moi, je pense surtout aux auteurs publiés au Fleuve Noir et à un auteur français, par exemple, comme Stéphane Vuhl, qui ensuite a été adapté en film d'animation par René Laloux, ou Jean-Pierre Andrevon également dans un film d'animation qui s'appelle Gandahar. Et ces deux auteurs-là, en fait, contribuent à nourrir une science-fiction d'écriture française que connaissaient les dessinateurs des années 70, dont Meubus. Et pour Meubus et Casa, par exemple, ils ont contribué, ils ont fait les dessins de ces films-là. Donc il y a des passages, il y a des entre-lectures entre la science-fiction de cette époque et les dessinateurs de bande dessinée.
On l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Dionnet, il y a un voyage au Mexique qui marque son parcours à Meubus. Pourquoi c'est important et pourquoi est-ce qu'on va peut-être y retrouver des traces quand on va évoquer Arzak ?
D'abord, quand il va au Mexique, il cherche son père. Or, il a un père officiel. Et il pense que son père est en réalité un champion d'escrime du Mexique.
Attendez, quoi ?
Il pense que son père est un champion d'escrime du Mexique qui a abandonné sa mère. Alors, ça n'a jamais été confirmé d'aucune manière, mais il a ce fantasme. Alors, il va chercher ce père, et puis il va découvrir, la maison de Inside Meubus, cette petite maison blanche au milieu du désert. Et il va découvrir aussi les champignons, il va découvrir la fumette, qu'il arrêtera dès qu'il voit que ça nuit à son dessin, parce qu'il est un homme très pratique. Il va tirer sur le pétard à une époque où c'est très à la mode, et puis le jour où il voit que sur un dessin, il continue à faire le même rond depuis une demi-heure,
bon,
il dit
suffit.
J'arrête. Ouais. Il arrête à la seconde. Donc, il a une rigueur de travail extraordinaire. On part souvent en vacances ensemble à l'île de Ré. Ça sera la déviation, en gros.
Et ben,
quand on part en vacances, c'est un grand récit d'un pilote qui est déjà
résumé
ce qu'il fera après.
Okay.
Et quand on est là-bas, il y a Philippe Druyer, il y a Loro qui fait de la fantaisie, il y a Yves Gott, il y a d'autres dessinateurs de pilotes. Mais le matin, il travaille, il fait du Blueberry. Une demi-page tous les matins, etc. Et l'après-midi, on va à la plage. Oh, il tient pas une demi-heure. Nous, on reste à la plage.
Il veut retourner à sa table de
travail. Il retourne à sa table de dessin, il fait du Moebius, qui pour l'instant n'intéresse personne. Parce qu'à Harakiri, ça n'a pas marché très fort. Le père Goscinny, avec qui il avait eu des soucis, parce qu'il s'était engueulé en 68, quand il propose un truc de science-fiction, avec moi d'ailleurs, lui dit, écoutez, Giraud, vous retournez faire Blueberry, vous arrêtez vos conneries. Puis il me dit, vous restez là, vous. J'ai rien contre vous, mais lui, c'est un sale con. Donc, ils avaient des rapports très tendus. Et la dernière fois qu'il a parlé en public, il a dit, je dois tout à Goscinny. Mais peut-être étais-je antisémite malgré moi. Alors je lui ai dit, après tu déconnes. Il dit, non mais j'aurais pas dû réagir comme ça. En fait, c'est parce que c'était le patron. Je dis, ah ben écoute, le patron, il y en a toujours un où que tu ailles. Il dit, je sais, mais c'était un père que je voulais pas. Encore une histoire de paternité. Et quand il va commencer avec Jodot, il me dira, c'est super, il a un côté paternel.
Oui, c'était une figure manifestement importante.
Voilà, c'est une figure importante pour
imaginaire.
Lui, dont il manquera toujours. Dont il manquera toujours. Alors, oui, il va faire Arzak dans Métal. En fait, ça commence à l'envers. C'est-à-dire qu'en 71, il y a un comics tiré à 300 exemplaires qui s'appelle Comics 130, dont il fait la couverture. Et dedans, il y a une histoire de 10 pages de Poivé, qui était le grand maître français de la science-fiction, qui en a marre de faire les pieds de l'espérance et qui va faire une histoire muette. Alors c'est un type, c'est une histoire totalement bête, c'est Allo MX1, et retrouver est-il vivant. Et après, c'est une série de rêves, on ne sait pas si le type est réveillé ou pas. Mais en tout cas, il y a un grand singe qu'on va retrouver. Il y a une femme sur un petit rhodactyle.
Ça aussi, on va le retrouver.
Ça deviendra Arzak. Il y a un terrain qui est un désert. Ça deviendra Arzak.
Alors, ça le marque fortement en 71.
En 71, l'histoire que Poivet a fait en 65 paraît à 300 exemplaires, personne ne la remarque. Lui, il ouvre des yeux en voyant ça comme ça. Alors il va dessiner tout à fait autrement. Quand je vais montrer à Raymond Poivet l'auteur, il me dira c'est très bien. Parce qu'il pense que lui, à son âge, il avait 70 ans peut-être, Poivet, n'était pas dans l'air du temps. Donc Moebius l'a mieux fait. Et Gillon, qui était un autre grand dessinateur, viendra le voir, je lui dis, t'as vu notre numéro 1 de Metal Hurlant, c'est super. Il dit, il regarde Jean, il dit, ouais, le premier épisode c'est super, mais il y a deux ou trois fautes de dessin que t'as corrigées à la couleur. Alors je dis, quand même, il est gonflé, Paul. Il dit, non mais il a raison. C'est-à-dire qu'à partir du 2, il n'y aura plus aucune faute de dessin. À partir du 2...
Ça veut dire quoi, des fautes de dessin,
Jean-Pierre Dunay? Des petites erreurs, comme quand il fait, par exemple, le Western Chihuahua à Pearl, où il prend une pub de dentifrice, et où il la recopie, il aura des ennuis à cause de ça, la fille a une canine de trop. Il faisait toujours trop, Jean. Là, elle a une canine de trop. Donc, dès le 2, il s'éloigne de Poivet, et il invente cet univers un peu mécaniste et tout, etc. Et au 4, il a pris son envol. Et après, il va revenir sur autre chose. Mais le vrai problème de Arzak, c'est qu'on va sortir le livre. Et... plus invendable, c'est impossible. Personne ne veut acheter un album sans texte.
Alors, on va parler de ça dans un instant. On va continuer de parler. Vous faites vraiment un cliffhanger, comme on dit, parfait. On va continuer de parler de Arzak, de ses prolongements et de ses variations avec vous deux, juste après cette chanson d'un groupe qui s'appelle Chose Sauvage. C'est un ensemble montréalais, ou alors un gang de bums, comme ils disent. Ils ont sorti un disque il y a quelques jours. La chanson s'appelle Fixe, et voilà ce qu'on y entend. Seul, je fixe un point au loin. Dans l'horizon, les yeux mi-clos, j'espère pour toi un moment similaire de solitude. Essaye le calme au besoin.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison, avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumée. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champ de blé ou de flamme d'allumette soufrée. Voilà la fin d'un texte publié par Jean Giraud, aka Moebius, en guise de préface à l'édition de sa bande dessinée Arzac, en forme de livre, après que les courtes histoires muettes ont été publiées dans le magazine Métal Hurlant. Tout cela se passe il y a pile 50 ans et tout cela est parfaitement révolutionnaire pour l'époque. Si bien que de très nombreux artistes, lecteurs, lectrices en ont été profondément marqués, inspirés, voire transformés. Arzac, prolongement et expansion, un monde culte aujourd'hui dans votre book club. Avec vous, Jean-Pierre Dionnet, vous êtes l'un des fondateurs du magazine Métal Hurlant et de la maison d'édition Les Humanoïdes Associés. Vous avez précisément publié une édition anniversaire de ce Arzac originel sur laquelle on se base aujourd'hui. Et avec vous, Aurélie Huss, vous êtes universitaire, chercheuse, maîtresse de conférences et vous êtes spécialiste de science-fiction. On va écouter la voix de Moebius parler justement d'Arzac.
Alors, Arzac, c'est un personnage, mais c'est surtout moi en train de communiquer à travers la revue Métal Hurlant qui vient d'apparaître et que, avec Philippe Bruyet et Jean-Pierre Dionnet, on veut lancer à la tête des adolescents de France comme une bombe, vous voyez, comme une bombe artistique, une bombe culturelle et une révolution dans la façon de créer ce qu'on pourrait appeler la figuration narrative. Arzac est une sorte de pavé hermétique et énigmatique, sans aucune explication, sans mode d'emploi. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une excuse, il n'y a pas un regret. Vous voyez, ça s'impose comme une sorte d'artefact brutal et comme un menhir minéral. En plus, il y a un accent très fort qui est mis à la forme, c'est-à-dire une forme très libre par rapport au canon de la bande dessinée. C'est plutôt une sorte de mixage de toute l'histoire de l'art avec la gravure, avec le naïf, la forme savante, les modelés. Vous voyez, toutes ces choses-là, je les ai injectées dans la mesure de mes moyens, bien entendu, hein, dans une histoire muette de 4 ou 5 épisodes qui est sortie comme ça, sans explication, dans Métal.
C'est la voix de Jean Giraud, Moebius, en 2010, au micro de Hervé Gardette et Caroline Brouet. Pourquoi est-ce que c'est une bombe, Aurélie Huss, Arzac, quand ça sort en 1975? Pourquoi est-ce que c'est effectivement ce qu'il a l'intention de faire, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement novateur?
Alors, pour plusieurs raisons, plusieurs aspects de cette bande dessinée qu'on doit prendre dans le magazine, dans Métal Hurlant, parce que il y a pas que cette bande dessinée qui paraît en épisode, il y a aussi tout ce qui l'accompagne, donc tous les discours et notamment le texte que vous avez cité sur les histoires en forme d'éléphant qui est en fait une citation qu'on trouve dans l'éditorial de Métal Hurlant du numéro 4. Pour Arzac en lui-même, il y a bien sûr tout ce qui concerne le graphisme, le travail graphique, d'avoir un travail de l'image, des planches, de l'ornementation de la planche, du trait et de la couleur qui vise à faire de la bande dessinée un média artistique, esthétique, comme il ne l'a pas encore été. En tout cas, c'est l'intention. Il y a aussi ce qui concerne bien sûr la narration, la construction du récit. Et cette idée qu'il n'y a pas de préméditation, que Arzac surgit de manière assez...
C'est arrivé comme ça.
Voilà, de manière pulsionnelle, avec un discours qui revient toujours sur l'idée qu'Arzac, c'est un peu la part inconsciente de Moebius, que c'est ce qui surgit voilà, sous son pinceau, sous sa plume, sans stratégie. Ce qui résonne fortement, du coup, avec ce discours des débuts de Métal Hurlant sur l'idée de faire éclater les carcans du scénario, du récit, contraint des conventions narratives.
Ça a éclaté aussi l'idée d'une idée de personnage, parce que là, Jean Giraud, Moebius dit bon, c'est un personnage, mais c'est moi. Puis on a presque envie d'entendre dans la parenthèse, et puis c'est plein d'autres choses, et peut-être que j'ai pas envie de le définir.
Oui.
C'est une entité. On peut aussi parler du fait que ça change en permanence d'orthographe.
Oui, alors du coup, déconstruction un petit peu du récit, et puis absence de texte, et le seul texte qu'on a, il change, c'est-à-dire le titre des épisodes. Donc l'orthographe est instable pour volontairement affirmer qu'en fait c'est inassignable et que l'intérêt de cette bande dessinée, c'est pas d'y poser effectivement un personnage avec sa biographie, son histoire, etc. Mais c'est de proposer, enfin moi je le vois comme une sorte de matrice exploratoire de la bande dessinée et bien sûr de la science-fiction, parce que le fait de se situer aussi dans, alors, un imaginaire de science-fiction au sens très très large.
Peut-être on peut dire les ingrédients de cet imaginaire-là. Alors, pourquoi est-ce que ça relève de cet imaginaire-là?
Oui, qu'est-ce qu'il y a dans Arzak? En fait, ça dépend des épisodes. On peut les situer de manière assez différente. On a une sorte de cavalier de ptérodactyle préhistorique dans un désert très minéral, avec des créatures fantastiques ou monstrueuses qui relèvent plutôt, effectivement, là pour le coup, de la merveille un peu fantastique. Mais on a aussi des épisodes qui montrent des inventions techniques, puisque ce ptérodactyle se fait réparer comme une machine. Et on a aussi des enchaînements de planches qui suggèrent, enfin, qu'on n'arrive pas à résumer, parce que
ça échappe tout le temps.
Voilà, exactement. Et là, on voit plutôt une sorte de rêverie un peu fantasmatique avec un enchaînement de tableaux.
Il y a une très très grande précision. Vous parliez tout à l'heure de Gustave Doré, Jean-Pierre Dionnet. Tout ça est dessiné avec une minutie. Enfin, c'est incroyable. Mais moi, bizarrement, ça m'a aussi fait penser aux planches de Rorschach. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de projection de soi à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'espace pour y mettre ce qu'on veut de son propre inconscient, de son propre imaginaire. Jean-Pierre Dionnet, vous avez vu les planches originales d'Arzak, évidemment, en 1975.
Oui.
Pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui va marquer tout cet art-là? 50 ans après, on en parle encore. On a été, il n'y a pas très longtemps, dans la bibliothèque de Riyad Satouf. C'est ce qu'il a choisi comme étant quelque chose de très important pour lui. Pourquoi?
D'abord parce que les histoires sans parole qui naissent tôt, hein, y en a Mazerelle en Belgique et puis en France, il fait des histoires sans parole, on est au temps du cinéma muet, dès 1895, Lindward, comme Chaplin, fera de la résistance, fera des histoires muettes jusqu'en 1940, pendant la crise de 1929. Et Chaplin fera encore un film muet en 1938.
Donc on pourrait se dire, finalement, Moebius qui fait du muet.
Voilà. Ouais. Donc lui, c'est pas pour les mêmes raisons. Eux, c'était vraiment parce que l'époque était muette et qu'on pensait qu'il n'y avait pas besoin de texte. Il était assez d'accord là-dessus, d'ailleurs. Il trouvait, moi, quand je lui ai montré les dessins de Lindward, que m'avait fait découvrir Will Eisner, il dit, c'est incroyable ce qu'il arrive à dire, mais il a vu ça après avoir fait Arzak. Mmh. Quand Arzak arrive, il y a eu Vuse de Druillet, qui était pratiquement muet aussi. Et ils étaient très amis à l'époque, mais très concurrents. Hein. Ils s'aidaient l'un l'autre, mais en même temps, quand Goscinny disait Druillet a explosé la bande dessinée, il disait, pourquoi ça serait pas moi? C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait la couverture du 1 et Druillet la couverture du 2. Parce qu'on voulait que Moebius soit aussi connu que Druillet.
Alors pourquoi est-ce qu'il reste dans le muet, Jean-Pierre Dionnet?
Alors, je crois qu'il reste dans le muet parce qu'il a envie d'en dire le moins possible, d'en suggérer le maximum. Il nous laisse libre d'entrer par la porte qu'on veut et de lire l'histoire qu'on veut bien comprendre. Il y a un truc qu'on avait tous à métal. Lui aussi, on aimait beaucoup les dédicaces. Au début, alors, on dédicaçait 50 métal hurlants, on en emmenait 5000 à Angoulême, on en ramenait 4000. Hein. Mais on aimait beaucoup les types qui disaient « Oui, moi, cette histoire, voilà comment je l'ai compris. » Et on les laissait longuement parler parce qu'on se disait « Leur interprétation, elle est pas mal. C'est peut-être la bonne. » Et à l'époque, les dédicaces qu'ils faisaient, quand un mec était intéressant comme ça, il faisait une planche entière.
Alors j'ai dit «
Mais Jean, j'ai pas de photocopieuse. » Ils disaient « On s'en fout, la planche est partie, c'est encore mieux. » Donc, il était ravi des interprétations. En fait, la philosophie générale de lui, de Druillet, de Corben, de ma pomme, quand je bosse avec Bilal ou d'autres, c'était un petit peu, on fait une histoire et on voit ce que les gens en tirent.
Mais il y a quand même une histoire, c'est-à-dire que quand on parle d'exploser les cadres narratifs de Moebius, il y a un désir de raconter quelque chose où on est juste dans la construction
presque organique. Non, il y a un désir de faire quelque chose et de voir comment ça tombe. Si je prends le cas de Bilal, qui était son disciple...
Non, restons chez Moebius, parce que sinon on va s'éparpiller.
Mais c'est le cas de Bilal, quand il fait du croisillon comme Moebius, il le fait une fois puis il arrête. Chez Moebius, je crois que la continuité de Arzak, c'est pour dire dans Métal, où il est le plus extrême à mon avis à ce moment-là, parce que Druillet en connaît déjà, c'est de dire, voilà un truc que personne n'attend. Et effectivement, personne ne l'attend. Il va s'avérer que ça sera peut-être le plus gros bide à l'époque de sa sortie, l'histoire des humanés d'associés.
Quand c'est repris dans le livre, ouais.
C'est horrible, c'est-à-dire qu'on va en vendre 5000 en 5 ans. C'est une horreur absolue. Les gens vont à la FNAC, ils le feuillettent. Et puis ils reviennent une deuxième fois à le feuilleter, et il faudra qu'il arrive à son chef-d'œuvre absolu, le garage hermétique, pour que rétroactivement les gens disent
reviennent.
En fin de compte, Arzac. Alors, les dessinateurs, non. Les dessinateurs, ils ont tous compris tout de suite.
Alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, Jean-Pierre Dionnet?
Ils ont compris qu'on pouvait être libre de faire absolument n'importe quoi. Dans le numéro des 50 ans de métal, il y a Fred Blanchard qui fait un truc sans texte, sans parole, où quelque part il essaye pas de faire Arzac, mais il fait son Arzac quand même. C'est-à-dire que c'est une suite de dessins énigmatiques où on peut rentrer par la fenêtre et voir qu'il n'y a pas de porte. Donc ça a marqué, mais pratiquement tout le monde. Et tout le monde s'est dit, comme pour le garage hermétique, j'aimerais bien faire mon Arzac ou mon garage hermétique, mais c'est pas possible.
Mais justement,
il l'a fait.
Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans cet archive de 2010, Moebius dit bien à quel point c'est quelque chose qui sort de lui.
Voilà.
Et ce qui est peut-être le plus intéressant à regarder a posteriori, et qui plus est avec 50 ans de recul, c'est l'émanation toute singulière par le graphisme d'un individu, d'un inconscient, d'une fantasmagorie, d'une intériorité. Parce que quand vous dites n'importe quoi, Jean-Pierre Dionnet, c'est pas complètement n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un monde qui se déploie. Il y a une grande précision. Et ça peut pas non plus, je vais préciser encore ma question, quand je vous dis qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire, il peut pas que vouloir faire quelque chose qu'on n'attend pas. Il désire autre chose en faisant Arzac.
En fait, moi, je le regardais travailler sur Arzac. Et il y a un truc qui me fascinait, c'est qu'on parlait de n'importe quoi, du fait qu'on allait manger du poisson à midi. Et on parlait sérieusement, et pendant ce temps-là, sa main dessinait. Mmh. Il avait appris ça de Jigé, son maître, de dessiner la japonaise, c'est-à-dire qu'il regardait pas ce qu'il dessinait, la plupart du temps.
Mmh, quand on voit la dinguerie de ce
Et il était en train de faire Arzac, et on parlait en disant, est-ce qu'à midi on mangera des sardines, ou est-ce qu'on passera à un autre poisson? Et pendant ce temps-là, sa main dessinait. Sa main était magique. Sa main, ça s'appelle la bête aux cinq doigts dans les films d'horreur. Sa main continuait à dessiner, parfois, sans qu'il lui demande. Elle était indépendante. Ça veut dire que sa main était son inconscient directement, puisque son conscient, il est 11h, faut qu'on aille acheter de l'essence pour aller acheter le poisson. Et pendant ce temps-là, il dessinait. Donc, on est dans l'inconscient totalement absolu. En fait, il a fait Arzac. Je dirais pas sans s'en rendre compte. Oui, sans en rendre compte, et quelque part sans s'en rendre compte.
Ouais.
C'est au troisième, quand il rajoute, vous l'avez très bien expliqué, une espèce des machineries, des trucs, au quatrième, où il nous met de nouvelles pistes, où on voit que Arzac est peut-être un oiseau en métal, qui se dit, il faut quand même que j'arrête avec le singe, Arzac, le désert. Donc, il nous pose de nouvelles énigmes qu'il ne résout sûrement pas.
Mmh.
Il n'en est pas question. Et puis, dans le dernier épisode, là, on est dans le flou total. Alors, on remarquera qu'il y a un tout petit peu de sexualité.
Bon, je pense qu'on peut même le remarquer, même dès le départ, avec la pluralité des formes phalliques.
Alors,
qui débarquent, et pas
voilà.
Uniquement le corps nu de la femme. C'est-à-dire qu'en permanence, le chapeau, les formes de fusil, y compris les roches qui vont vers le ciel, il y a vraiment quelque chose. Lui parle d'ailleurs d'un Arzac qui aura été comme radioactif en lui, on pourrait presque dire une sorte de force pulsionnelle, d'une certaine manière, Jean-Pierre Dionnet.
Alors, Moebius, c'était un coquin. Bon, dans Arzac, les dessins sont assez discrets quand même. On voit une paire de seins, tout
ouais,
ça, etc.
Ouais, c'est vraiment très discret aussi.
Mais je me souviens de mes anniversaires où il m'amenait chaque année une aquarelle. Bon,
Peinte par lui. Peinte par lui.
Oui, oui. Et il en a amené une pour moi et une pour ma femme pour pas qu'elle soit jaloux. Bon, moi, il m'amène à Arzac avec moi à la place de Arzac avec un gros nez. J'ai dit, mais j'ai pas de gros nez. Il dit, tu verras, ça viendra. Et puis, pour ma femme, c'est un magnifique dessin de femme nue, ma femme, à côté d'un gigantesque cristal phallique. Je dis, là quand même, il dit, non, c'est du cristal. Comme un gamin qui s'est amusé comme ça. C'est-à-dire qu'il était à la fois enfantin, et passionné d'ailleurs par toutes les choses du sexe, mais d'une manière enfantine.
Mais justement, Aurélie Huss, qu'est-ce qui demeure de l'enfance ou peut-être d'un rapport inconscient, peut-être même pas certain de ce qu'il avance dans les dessins de Arzac?
Alors moi, j'ai envie
sans faire trop d'interprétations.
Non, mais je vais citer en fait un épisode d'Arzac qui n'est pas dans le livre. Parce qu'il y en a un qui n'a pas été repris, qui est un gag. qui est en noir et blanc, qui est pas en couleur directe comme les autres, qui est vraiment un sketch, puisqu'on voit un Arzak uriner, le long d'un mur, se faire arrêter, et puis, alors il est peut-être à la fin de ce volume, mais en tout cas, l'urine se transforme en une sorte de créature végétale abstraite, voilà, qui s'en prend aux policiers qui arrivent, enfin, sans aucun rapport avec les épisodes qu'on a l'habitude de lire, et je pense que c'est caractéristique du fait qu'Arzak devient le moyen pour Moebius de s'autoriser et d'aller chercher d'accoucher de ce qui vient, que ce soit sur un mode vraiment potache et comique ou que ce soit sur un mode profond, morbide, faisant place à des images effectivement phalliques ou sexuelles comme Moebius le reconnaît, et Arzak est aussi ce que Giro Moebius passe souvent du temps aussi à commenter, comme s'il s'y voyait, en fait, comme s'il s'y découvrait aussi.
Oui, c'est presque finalement, c'est un mot qui devient véhicule à la fois de dessin, de langage, de commentaire sur un dessin, et avec, on l'a entendu, que ce soit pour lui-même, ses copains de Métal Hurlant, ou les lectrices et lecteurs qui viennent en dédicace, comme ça, un océan d'histoires possibles à partir de quelque chose qui ne contient pas de mots. Les mots, on y va, on est dans un second temps. On va ouvrir ce grand volume qui s'appelle Arzak, destination Tassili, corpus final. Là où il n'y avait que du muet et du graphisme, les mots arrivent. Tandis que, loin dans l'espace, les loups pourchassent les agneaux. Ici-bas, sur Tassili, le monde aux mille déserts, le monde oublié des mondes, les nuages géants glissent en silence dans le ciel. Des gouffres s'ouvrent et plongent dans les entrailles de la planète. Là où reposent, dans leur sommeil liquide, de noires mers intérieures dont aucun souffle n'agite jamais la surface sans âge. Et au centre, cloîtré dans un cristal palpitant, le méditant originel, le dernier des sorciers, nécromant, rêve, interminablement. Jadis, Tassili était le centre d'un empire qui semblait infini, aussi impérial dans les dimensions du temps que dans les bras de l'espace profond. Et puis un empire plus puissant a surgi. Sa maîtrise était si supérieure que les Wergs en vinrent à se dissoudre dans le néant de l'histoire. Les nouveaux venus, les humains, apportèrent dans leur grand vaisseau le temps du chagrin et la chute de l'Empire Werg dans la poussière de l'oubli. Dans une ultime tentative de sauvegarde de la mémoire de l'âme Werg, le conseil terno-chamanique de Tassili prit une importante décision. Le meilleur d'entre eux serait choisi au cours d'une funèbre cérémonie. Puis, les sages se sacrifieraient pour se fondre en un. Protégé du temps à l'intérieur du cristal rêveur, celui qui était devenu ainsi le dernier refuge de la conscience Werg prit à jamais le nom de Ark le Seul. Aurelius, vous avez dit tout à l'heure, parlant d'Arzak, que ça voulait, dans le désir de Moebius, Jean Giraud, défier tout ce qui pourrait le capturer, le définir trop. Où est-ce qu'on arrive quand on arrive dans les prolongations d'Arzak? Pourquoi est-ce que vous parlez d'un monde tentaculaire, rhizomique? Et que font les mots dans un monde jusque-là muet?
Oui, c'est effectivement pas évident. Surtout que ce Arzak Tassili, donc dont l'histoire en fait c'est celle des 15 dernières années, il fait suite à une existence d'Arzak au-delà de la bande dessinée originelle, dans une série, enfin un grand nombre de déclinaisons qui passent par l'illustration. Il apparaît dans les portfolios, dans des sérigraphies, et donc sous la forme de l'image unique. En fait, il est décliné cette figure de ce personnage avec ce chapeau conique.
Comme si ça continue à travailler. C'est-à-dire, dans l'archive de 2010, Moebius dit c'est radioactif, c'est sous mon travail en permanence, ce serait ça.
Oui, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'éclipse entre 75 et puis 2009-2010, mais que Arzak continue à fonctionner, simplement pas sur un régime qui est celui de la bande dessinée, plutôt sur le régime de l'illustration, et que du coup, quand Moebius revient à Arzak dans les années 2000, aussi bien par la bande dessinée d'ailleurs que par une série d'animations qu'il a faite aussi en 2003, il lui donne le verbe. Et à mon sens, ce texte produit, c'est moins de fixer Arzak dans une identité
ou une explication.
Que d'en offrir une version possible, puisqu'il est, d'une certaine manière disponible, cet Arzak, vide et donc disponible dans sa genèse. Donc pour moi, cette bande dessinée, c'est une nouvelle voie qui est
quand
creusée.
Quand vous dites disponible dans sa genèse, c'est-à-dire qu'on est tout à fait libre de revenir au Moebius de 1975, le Arzak muet, qui ne sera jamais dérangé par le verbe, en fait, il ne sera jamais complètement dévoilé ou déplié par le texte ajouté par Moebius.
En tout cas, je ne préjuge pas de la lecture qu'en feront telle ou telle les personnes qui vont lire la bande dessinée, mais oui, pour moi, d'une certaine manière, ce Arzak Tassili, destination Tassili, ne vient pas remplir l'Arzak originel, mais il ajoute une couche de signification possible. Je ne sais pas, bien sûr, de ce que Moebius envisageait. Est-ce que c'était là une sorte de réponse, ou est-ce que c'était ce qu'il avait trouvé quand il a repris Arzak comme manière, voilà, de le réinvestir, de lui redonner vie.
Jean-Pierre Dunet.
Oui, alors c'est bizarre parce qu'il y a plein de versions. Là, je crois qu'on a la définitive avec Destination Tessie. La première version, elle est en noir et blanc, avec le texte à côté, comme dans cet album.
Voilà, on peut aussi le figurer.
Comme ça n'avait à nouveau pas marché, parce que il n'y avait pas de texte dans l'image. Décidément, il y a une malédiction Moebius, même si le premier Arzak, etc. Il va la refaire avec des bulles en couleur pour l'éditeur Glénat. Et après l'édition définitive, ça sera toujours en couleur, mais avec le texte à côté à nouveau. Et en fait, il s'est rendu compte en cours de route que ça, c'est son côté vicieux. Parce que quand il avait mis le texte à côté et l'image à côté dans la première édition noire et blanche, je lui dis, mais le texte que tu as mis à côté, qui est un espèce de poème, ne décrit absolument pas ce qui se passe dans l'image à côté. Il dit, c'est exprès. C'est exprès. Si tu lis le texte, ça ressemble vaguement au dessin, mais pas exactement. Ouais, c'est déstabilisant, j'aime bien, moi. Puis il dit, je ne vois pas pourquoi je décrirais ce qu'il y a dans les images, tout le monde le voit. Je dis, donc tu racontes autre chose. Il dit, oui, je raconte un peu autre chose, oui, oui. Il dit, d'ailleurs, on pourrait mettre le texte sans les images aussi. Il n'a pas fait ça. Mais il y songeait, moi, je disais, pourquoi tu fais pas un jour un recueil de poèmes? Il dit, oui, non, ça c'est prétentieux. Un drôle de personnage. C'est-à-dire, il ne voulait pas se trouver. Il voulait se perdre. Il ne voulait pas nous trouver. Il voulait nous perdre.
Est-ce que c'est ça qu'on doit entendre quand on parle de lui en tant que figure d'arpenteur? C'est-à-dire qu'au final, ce qui l'intéresse le plus, c'est parcourir le monde, pas tant à arriver à destination, quoi.
Voilà. Et en fait, on parlait des fois du petit poussé. Moi, j'avais produit le petit poussé de Dahan, qui était trop dur pour les enfants et trop doux pour les adolescents. OK. Et il avait vu le film, il l'avait trouvé plutôt bien. Il lui dit, pourquoi il m'a pas demandé des costumes? Je lui dis, écoute, OK. Mais en fait, il dit, ce qui est emmerdant chez Poussé, c'est tous ces cailloux derrière. Moi, j'aurais bien enlevé ces cailloux. L'idée, c'est qu'il met des cailloux pour savoir comment il pourra revenir. Mmh. Et moi, j'aurais pris ces cailloux pour qu'il soit encore plus perdu que ses frères. Alors, par exemple, une des passions de Moebius, c'était le jeu de mots, mais les plus lamentables. Mais il adorait ça. Et il pouvait être saoulant, parce qu'il pouvait en faire 40 calembours de suite. Et tu te disais, mais c'est pas possible, il va pas en faire un 40e.
Mais on trouve presque ça dans ce qu'on disait tout à l'heure d'une orthographe qui est en permanence en train de changer. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous pouvez vous tenir à quelque chose qui serait ce seul nom, ce seul titre que je vous donne. Mais attendez, bougez pas. Je vais secouer les lettres dans tous les sens et puis la prochaine fois que ça apparaîtra, ça aura encore une autre tête. Donc il y a l'idée pas tant de déconstruire que de perdre Aurelius.
Pour moi,
ou de déconstruire pour perdre.
Alors, En fait, pour moi, il y a l'idée de pas construire.
De pas construire. Ouais.
Voilà. Donc de pas construire, de poser un certain nombre de choses, mais qui ne sont jamais définitives, qui ne sont que des virtualités en quelque sorte.
Et pourtant, c'est hyper élaboré. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un réseau rhizomique fictionnel, on peut presque avoir l'impression que c'est construit, que ce soit l'Arzac original ou que ce soit la reprise bien des années
après. En fait, si on consomme toutes les œuvres qui portent Arzac, on voit effectivement tout un réseau avec des transformations de l'apparence du personnage, avec les transformations de l'oiseau aussi. Et donc, effectivement, c'est assez vaste. Cela dit, ce réseau très vaste ne permet pas de faire une encyclopédie d'Arzac, de résumer l'histoire d'Arzac.
D'avoir pigé Arzac.
Et c'est ça. On le met pas en cage. Mais plutôt donne l'impression justement que ce réseau peut s'étendre à l'infini. Et je pense que c'est ça, en fait, la force de cette figure d'Arzac.
On va écouter la voix de Michel, auditeur du Book Club. Il pose des questions sur ce que ça a semé dans la bande dessinée en général depuis 50 ans.
Bonjour le Book Club. Pour moi, Moebius, c'est un peu une ode à la créativité, une démonstration de liberté graphique. Alors à Jean-Pierre et Aurélie, en 1975, Arzac brisait bien les codes traditionnels de la BD, tant sur le plan narratif que graphique. Et avec le recul de ces 50 ans, diriez-vous que cette œuvre a ouvert une nouvelle voie pour la BD? Et si oui, comment cette influence se manifeste-t-elle encore aujourd'hui? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Michel, pour cette lecture et cette question, Jean-Pierre Dionnet.
Je dirais que elle se manifeste à contrario. C'est-à-dire que un nombre incroyable d'auteurs disent « il était pour moi le plus grand ». Et ils disent, mais le problème, c'est qu'on peut pas reprendre le chemin qu'il a pris, parce qu'on peut pas le dépasser. Donc, il faut aller vers d'autres voies. Et je ne connais qu'un ou deux dessinateurs qui ont dit, je vais essayer de faire mon garage hermétique, mon Arzac. Ils ont très, très vite abandonné. J'en connais qui ont commencé, les Matotti et autres, ils ont commencé à faire un truc. Et puis après, ils se sont dit, non, faut pas toucher à ça. C'est-à-dire que c'est un peu un phénomène comme Rimbaud ou autre, c'est-à-dire qu'on constate, on se dit, je pourrais faire mon Rimbaud, puis on se dit, non, il y en a eu un.
Oui, mais en même temps, ce que ça enseigne, je reviens à la question de l'extrême singularité, quand vous dites, il l'a fait le sien, et quand vous dites, à contrario, Jean-Pierre Dionnet, est-ce qu'il n'a pas, Moebius en 75, en produisant ses récits muets avec Arzac, montrer que ce qui pouvait être intéressant ou révolutionnaire, c'est de coller très très proche avec ce qu'on est, avec ce qu'on a à l'intérieur de soi, avec comment on a digéré ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, nos rêves, nos fantasmes. C'est précisément l'expression la plus singulière de soi.
Oui.
C'est ça qu'il a peut-être proposé en héritage.
Exactement, c'est ça qu'il va proposer en héritage. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en même temps, il continue vaguement Blueberry. Et bon gré mal gré. Et il peut faire un album entier où Blueberry s'est cassé la jambe et reste dans son lit de 48 pages. C'est-à-dire qu'il veut plus de contraintes. L'album suivant, pendant 48 pages, il joue au poker.
Oui, l'héritage, c'est la liberté, quoi.
C'est-à-dire, et à partir de Arzac, à partir du moment où il travaille avec Jodorowsky, où il va faire 4 albums formidables, il n'a pas envie de faire le 5e. Après, il va commencer Inside Moebius, il dit « Oh !» Je voulais en faire 2, je dois en faire 5. Il n'a plus envie de se répéter quoi que ce soit. Et quand il parle de faire un dessin animé avec Ridley Scott, qui a bossé avec lui sur Alien, il parle de Arzac tout le temps. Ils ont envie de faire Arzac. Bon, en fait, il le fera pour une pub pour un cognac, sans lui, Ridley Scott. Après, ça s'arrangera, il créditera Moebius, etc. Mais son rêve, c'est d'en faire de l'animation. Ce qui a été fait n'était pas bien. Et puis, il a fait un essai à Hong Kong. Alors, ils sont revenus catastrophés en me disant « On a vu ce qu'ils ont fait à Hong Kong, c'est pas bien. Moi, j'y vais le mois suivant et je vois un Arzac parfait. » Mais ceux qui avaient raté disaient pas que les autres avaient réussi à faire Arzac avec des bras qui bougeaient comme si c'était des serpents. Donc, le mystère de Arzac, c'est que les gens qu'il touche, comme Ridley Scott, comme ces Chinois, c'est qu'ils se disent « Il faut que je fasse quelque chose qu'on a jamais fait en animation. »
Ça fait un peu pierre magique, quoi. Voilà. Aurélie Hughes, sur la question de l'héritage et posée par Michel, qu'est-ce que ça a éventuellement semé ou essaimé dans la bande dessinée?
Moi, je pense que c'est justement la circulation de la figure d'Arzac à travers les supports qui, alors je sais pas si ça laisse un héritage, mais en tout cas, ça a une empreinte importante parce que il y a bien sûr la bande dessinée, il y a les dessins, il y a les projets d'animation, il y a aussi tout l'art de Moebius qui a repris sans cesse, réitéré cette figure-là. Et je pense que c'est très suggestif et c'est très évocateur par cette manière que dont l'image en fait pénètre, circule de manière très libre à travers tout un ensemble de modes d'expression.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on va passer de la science-fiction à la science avec vous, Mathilde Wagmann. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Tous les mercredis, vous vous intéressez à des livres destinés aux plus jeunes d'entre nous. Aujourd'hui, vous nous parlez un peu de science, donc.
Eh oui, Marie, il était temps que je fasse un peu de place aux sciences dans cette chronique. Je crois bien que depuis qu'elle existe, je n'ai encore jamais parlé d'un livre scientifique, mais à maxima culpa. Ce qui me donne l'occasion de réparer ce grave manquement, c'est la parution d'un livre réjouissant. Il s'appelle 50 nouvelles expériences scientifiques pour les petits physiciens du week-end. Et comme son nom l'indique, il donne le mode d'emploi pour réaliser chez soi 50 expériences avec trois fois rien, des objets de la vie de tous les jours, tout en donnant les clés pour en comprendre les ressorts scientifiques. Il est signé d'un chercheur en physique, Auguste Girès, et de ses deux fils, Nikita et Nathanaël, avec qui il a mis au point, réalisé, testé les expériences proposées. Le livre a paru aux éditions Delachaux et Niestlé Jeunesse. Pour chaque expérience sont exposées, page de gauche, le matériel nécessaire et les instructions à suivre pour la réaliser, photo à l'appui, page de droite, un texte et des schémas qui permettent d'en comprendre les bases scientifiques. On découvre ainsi, par exemple, le phénomène de la dilatation de la matière à l'aide d'un trombone, pourquoi le miel a valeur antiseptique, c'est lié à un phénomène physique qui porte un très beau nom, ça s'appelle l'osmose, le fonctionnement des ondes électromagnétiques avec deux téléphones portables et du papier alu, ou encore les mécanismes qui régissent la propagation du son avec une fourchette et de la ficelle.
J'ai hyper envie. Est-ce que vous avez testé ces expériences, Mathilde?
Bien sûr, Marie, je fais les choses avec conscience professionnelle. Moi, en doutez-vous. Soyons honnêtes, je n'ai pas testé les 50 expériences, je n'ai pas encore eu le temps, mais j'en ai réalisé plusieurs et me suis diablement amusée. Pour vous montrer de quoi il en retourne, je me propose même d'en réaliser une là, sous vos yeux, en direct.
Ouais. Wow.
Cette expérience s'appelle la pomme sous pression.
C'est pour ça que je vois une pomme et deux pailles sur la table de ce studio. On y va.
Marie, une pomme et deux pailles en carton recyclable, idéalement. C'est tout le matériel dont vous avez besoin pour faire cette expérience. Je la réalise donc sous vos yeux ébahis.
Ouais.
Je me saisis d'une paille. Je prends cette pomme et je vais essayer tout simplement d'enfoncer la paille en la tenant normalement comme ça dans la pomme.
Vous n'allez pas y arriver.
Ah, on va voir. J'essaye.
Ça marche pas. C'est nul.
La paille, elle est toute pliée.
Voilà.
J'en prends une autre. Je prends la deuxième paille. Je vais faire la même chose.
Ouais.
Sauf que cette fois, je vais boucher l'extrémité de la paille avec mon pouce. Et là.
Mais non.
Qu'est-ce qui s'est passé, Marie?
Incroyable.
Dites-le à nos auditeurs.
Eh bien, la paille est complètement entrée dans la pomme. Il y a même un petit peu de jus qui est sorti.
Voilà, la paille est rentrée dans la pomme. Victoire, l'expérience a marché. J'avais très peur que ça marche pas.
C'est clair.
Alors, la question, c'est pourquoi j'ai réussi? Pourquoi est-ce que lorsqu'on bouche la paille avec son pouce, on arrive à percer la pomme? Eh bien, pour le comprendre, Marie, le livre nous explique ce qu'est la pression. L'air qui nous entoure n'est pas vide. Il est plein de petites particules invisibles à l'œil nu et qui bougent sans cesse. Quand une de ces particules tape sur une surface, la particule rebondit un peu comme un ballon sur un mur et ça crée une force qui appuie sur la surface. Comme il y a plein de ces particules dans l'air, ça finit par faire une grande force et cette force s'appelle la pression. Quand on bouche la paille avec le pouce, l'air ne peut plus s'échapper de la paille, il appuie sur sa surface, l'intérieur de la paille est alors sous pression. Cela rend la paille rigide, un peu comme un bâton et c'est ce qui explique qu'elle ne plie pas et que j'ai pu transpercer la pomme, c'est QFD. Cette expérience-là est des plus simples, certaines proposées sont plus spectaculaires. On s'amuse autant à les réaliser qu'à en comprendre les raisons. Je n'ai pas encore eu le temps de les tester toutes, donc, mais je les ai toutes lues et je me suis surprise à prendre un grand plaisir à cette seule lecture. C'est un peu comme si j'avais lu 50 mini-récits d'aventure, 50 mini-récits à suspense. L'aventure, c'est la mise en place de l'expérience, les outils dont on se saisit, un peu comme un marin qui prépare sa traversée. Le suspense repose quant à lui sur cette question. Pourquoi le phénomène que l'expérience a permis de révéler s'est-il produit? À l'école en France, vous le savez, on a coutume d'opposer les matières scientifiques aux matières littéraires et pire, de suggérer aux enfants très tôt qu'ils ont un esprit soit scientifique, soit littéraire, comme si les deux choses étaient inconciliables. Le plaisir que j'ai pris à lire ce livre montre, si besoin était, que cette partition est idiote et que le principe même de l'expérience scientifique recèle autant de mystères, de saveurs et de péripéties qu'un bon roman d'aventure.
Est-ce qu'on rappelle le titre du livre?
Ouais, ça s'appelle 50 nouvelles expériences scientifiques pour les petits physiciens du week-end. C'est signé Nikita Nikita Nathanaël et Auguste Giresse, illustration de Vincent Casas, aux éditions Delachaux et Niesley. Et juste un petit mot sur un autre sujet pour vous signaler qu'on a appris ce matin que le prix Astrid Lindgren, l'équivalent du Nobel pour la littérature jeunesse, a été décerné cette année à la française Marion Brunet, qui est l'autrice de très nombreux romans pour adolescents. On aura probablement l'occasion d'y revenir ici même.
Merci beaucoup Mathilde, j'adore quand cette chronique se transforme en performance, quoi, quel que soit à chaque fois.
Moi aussi j'adore.
Ouais, c'est super. On peut vous réécouter, ce sera sans l'image, mais tout aussi savoureux. Lecture jeunesse, franceculture.fr. Derrière la vitre, ils sont subjugués par votre expérience, Mathilde. Ils ont fait le geste de la paille et de la pomme. À cette heure-ci, c'est le grand jeu des pages musicales. On propose à nos auditeurs et à nos auditrices de repérer de la musique dans les livres. Alors, on a été chercher un peu de jazz, parce qu'on sait que Moebius, il adorait Johnny Cash, vous l'avez dit, mais il était aussi très amateur de jazz, vous l'avez dit aussi, Jean-Pierre Dionnet. Qui est-ce qui joue aujourd'hui avec nous? Elle s'appelle Sabine, notre auditrice, et elle a pris un extrait d'un livre qui s'appelle « Sans l'ombre d'un doute » de Michael Connelly, paru en 2024 chez Kalman Levy, dans une traduction de l'anglais par Robert Pépin. Bosch s'arrêta devant les rayonnages à côté de sa platine, passa en revue sa collection de disques et en choisit un vieux parmi les préférés de sa mère. Sorti en 1960, un an avant la mort de cette dernière, l'album était toujours en parfait état. Le soin qu'il avait mis à le garder intact, disant tout le respect qu'il avait aussi bien pour le musicien enregistré que pour sa mère. Il posa soigneusement l'aiguille sur la deuxième piste de « Introducing Wayne Shorter ». Après avoir quitté les Jazz Messengers d'Art Blakey, afin d'enregistrer le premier disque où il dirigeait un groupe, Shorter avait vite fait chanter son saxophone ténor avec Miles Davis et Herbie Hancock. Théo, le barman du Catalina, lui avait laissé un message comme quoi Shorter venait de mourir. Bosch resta debout devant ses haut-parleurs à écouter ce que Shorter avait fait dans cette deuxième piste. Contrôle du souffle, travail des doigts, tout y était. Très grand merci Aurélie Huse et Jean-Pierre Dionnet d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de Arzak, tout ce monde. J'espère qu'on aura donné envie et on aura rendu curieux nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire Arzak dans sa version originelle, publiée aux éditions Humanoïdes Associés. On peut lire aussi Arzak, Destination Tassili, Corpus Final. Ça, c'est publié aux éditions Moebius Productions. Et puis, on peut se rendre à Tourcoing pour une exposition qui célèbre les 50 ans de la fondation du magazine Métal Hurlant. Et puis, on peut lire vos mémoires, Jean-Pierre Dionnet. Ah, ça fait pas mal de lectures. C'est au diable Vauvert.
Oui. Ouais. Pour l'été.
Pour l'été, voilà, pour la plage.
Pour l'été, parce que c'est un peu ardu.
D'accord.
Et il ne faut pas faire de easy reading à la plage.
Voilà, c'est ça.
Il faut prendre des bouquins prise de tête.
Parfait. Donc on se lève le matin, on travaille.
Moi, je prends Xénophon pour l'été.
Très bien, parfait, c'est un excellent conseil. On mettra ça dans nos recommandations d'été. Merci beaucoup à vous d'avoir été là au son aujourd'hui. C'était Ruben Carmazine à la réalisation, Vivien Demeyer. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à préparer cette émission, particulièrement aujourd'hui à Mathilde Wagman.